Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, je reçois André Gounel pour parler du baptême. J'ai intitulé cette émission « Un peu d'eau et des larmes » parce qu'il y a eu des luttes dures dans l'histoire à ce sujet. Mais avant de commencer de parler du baptême, il faudra parler des sacrements. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on définisse rapidement quelques notions sur l'histoire. Alors, on va faire un petit retour très simplifié.
Oui. Ben voilà, le protestantisme naît au XVIe siècle d'un ensemble de mouvements de réforme. Il n'y a pas une réforme, il y en a plusieurs. Il y a la réforme par Luther, la première, la plus ancienne, qui part donc d'Allemagne. Puis il y a la réforme suisse, qui démarre avec Zwingli à Zurich, et dans laquelle s'insérera un peu plus tard Calvin. C'est pour ça qu'on dit réformé, on ne dit pas calviniste.
Oui.
Ça part de Zwingli. Puis il y a la réforme qu'on nomme quelquefois radicale, avec des groupes illuministes, c'est-à-dire qui croient à l'inspiration directe du Saint-Esprit, les anabaptistes, dont nous parlerons avec le baptême, et les antitrinitaires. Alors là, ça fait trois mouvements de réforme auxquels il faudrait ajouter la réforme catholique qu'opère le Concile de Trente,
oui,
au XVIe siècle, et la réforme anglicane, qui sont des réformes un peu à part.
D'accord, mais on n'en parlera pas, enfin
on n'en parlera
on
pas.
En reparlera pas là.
Alors là, ces trois mouvements de réforme, luthériens,
voilà,
réformés et radicaux.
Oui, donc Luther, le démarrage, si on peut dire, mais en même temps, Zwingli est un peu...
Oh, c'est la même...
C'est la même période.
C'est la même, ils sont contemporains, hein,
oui,
exactement, à deux ans de distance, ils ont
oui,
le même
oui.
âge.
Et puis...
Et leur mouvement part indépendamment l'un de l'autre,
ouais,
même si à la fois ils se rejoignent, mais ont aussi des dissentiments.
Oui, 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 oui. Donc Luther, Calvin, Zwingli, les anabaptistes, et on retrouve ces courants dans les églises protestantes aujourd'hui. Il y a les luthériens, il y a les réformés, et les baptistes évangéliques, pour, en simplifiant. Maintenant, donc, on va revenir au sacrement, puisque pour parler du baptême, il faut parler des sacrements. Alors, tout d'abord, la définition du mot sacrement, ça renvoie à sacré.
Alors, ça renvoie à sacré, étymologiquement, c'est discutable, mais peu
ouais.
importe. En fait, c'est un mot qui n'est pas biblique. On ne le trouve nulle part dans la Bible. C'est la Vulgate, la traduction latine, qui a traduit une fois le mot mysterion, mystère,
oui,
par sacramentum. Mais autrement, c'est pas un mot biblique. C'est un mot qui vient plutôt du monde païen. Par exemple, quand les légionnaires s'engageaient dans la légion, il y avait un sacramentum, c'est-à-dire une promesse, un engagement.
Oui.
Et à la réforme, il y a eu des hésitations autour de ce mot.
Qui était utilisé par les catholiques.
Qui était utilisé largement.
Oui.
Zwingli pense qu'il faudrait mieux pas l'utiliser.
Oui.
Et puis il est emporté par les querelles, les disputes, les controverses, les traités, et finit par l'utiliser. Mais il aurait préféré l'éviter.
Il aurait préféré le mot mystère,
il aurait préféré le mot cérémonie, sans doute.
Oui.
Les anabaptistes, eux, parlent plutôt des ordonnances, c'est-à-dire ce que Jésus ordonne de faire. Et ça va loin, l'hésitation, puisque même au XIXe siècle, un théologien protestant comme Schleiermacher dit « c'est dommage d'avoir ce mot sacrement,
oui,
il faut l'écarter, il ne fait que compliquer les problèmes ».
Oui, oui, oui. Et dans quel sens il le disait, compliquer les problèmes par rapport à la relation que je viens de faire au mot sacré ou...
Oui, alors ça complique aussi les problèmes parce que ça met le baptême et la scène dans la même catégorie, alors que d'après la Bible, c'est pas évident
ouais.
que ça se rapproche. Et puis, c'est un mot qui est chargé de tout ce que lui a apporté l'histoire, et c'est beaucoup, c'est beaucoup.
Oui, alors, donc, vous dites la scène et le baptême, donc c'est les deux sacrements dans le protestantisme.
Oui, alors, dans les classifications du XVIIe siècle, on classe les cérémonies en quatre catégories.
Oui.
La première catégorie, c'est celle que que le Nouveau Testament institue et ordonne de faire. Et pour les protestants, il y a le baptême et la scène, un point c'est tout.
Oui. Autres, on ne retrouve rien d'autre dans la Bible.
Il n'y a rien d'autre. Mm. Les autres cérémonies, par exemple, quand les catholiques disent que le mariage est un sacrement, oui. Ils disent non, le baptême et la scène ont un rapport direct avec le salut et avec Jésus. Le mariage, ça relève de la création.
Oui.
C'est donc pas considéré comme un sacrement. Alors, quatre catégories de sacrements, quatre de cérémonies, les sacrements, proprement dit, baptême, scène.
Oui.
Les cérémonies jugées nécessaires, mais qui ne sont pas des sacrements, et dans cette catégorie-là, on aurait le mariage.
Ouais.
Les cérémonies qui sont utiles,
oui.
Mais qui dépendent des circonstances.
Comme ?
Par exemple, faut-il faire une dédicace d'un lieu de culte ?
Oui.
On peut.
Oui.
C'est pédagogique,
oui.
Mais ce n'est pas nécessaire.
D'accord.
Curieusement, les ensevelissements.
Oui, alors voilà, j'allais poser la question. Je sais que les ensevelissements n'étaient pas entourés de pompes au XVIe siècle. On s'en débarrassait un peu furtivement.
Là, le raisonnement est tout à fait caractéristique. Il y a des endroits, le Pays de Gex, etc., où à certains moments, on les interdit, les ensevelissements.
Oui.
Parce qu'il y a trop de superstitions.
Pour éviter le culte des morts.
Exactement.
Ouais.
Et puis, il y a d'autres endroits où on dit non, c'est une manière d'accompagner les familles mourantes, c'est donc une cérémonie qui peut être utile. C'est ce qu'on appelle en termes théologiques les adiaphoras,
ah bon?
Les indifférents.
D'accord.
C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça compte pas, mais
oui.
Ça veut dire que ça vaut dans un contexte, pas dans l'autre, que ça vaut à une époque, pas à une autre.
Ça veut dire aussi que c'est pas la peine de se taper dessus pour
oui,
ça. Voilà,
oui.
ça relativise un peu l'importance
Il y a une lettre fameuse de Luther qui écrit à un prêtre devenu pasteur. Les autorités de la ville veulent qu'il fasse une procession.
Oui.
Et le prêtre est tout ennuyé.
Oui.
Et Luther a dit bon, écoutez, faites la procession pourvu que le salut ne soit pas attaché à ça.
Oui.
Voilà, donc ça se fait selon les circonstances. Puis la dernière,
et la dernière catégorie, oui.
C'est les cérémonies qui sont interdites.
D'accord.
Culte des saints,
oui.
Pour les protestants.
Bien sûr.
Qui sont considérés comme idolâtres.
Oui, et il y a d'autres cérémonies interdites, donc les processions.
Il y a des variantes, hein.
Ouais.
C'est-à-dire que ces catégories. Sont pas étanches selon les cas.
Ah oui, d'accord.
Alors les réformés,
ouais.
Auront beaucoup plus de cérémonies interdites que les luthériens, par exemple.
Oui.
Ils seront beaucoup plus radicaux. On a beaucoup discuté, par exemple, autour de la confirmation. Est-ce que c'est une cérémonie permise,
et ça se faisait, la confirmation, au début ?
Oui, il y a eu tout un débat sur la confirmation,
ouais.
Entre ceux qui ne la voulaient pas,
ouais.
Et ceux qui la faisaient en considérant que c'était utile, pédagogique,
ouais.
Et ceux qui la jugeaient nécessaire.
D'accord. Alors on va revenir...
Il y a les consécrations des pasteurs, par exemple.
Ah oui. Alors là, donc, c'est dans le nécessaire, dans le...
Alors, c'est pas dans le nécessaire, c'est dans ce qui peut se faire ou pas,
voilà.
Se faire, selon les cas. La consécration des pasteurs a l'avantage de bien marquer,
oui.
Que le pasteur a un ministère particulier. Il a l'inconvénient de faire du pasteur un être à part.
Voilà, il ne faut pas l'identifier au prêtre qui fait...
Alors, dans certains cas, on ne fait plus les consécrations.
D'accord.
Précisément pour ne pas donner au pasteur, ne pas en faire un prêtre.
Oui, parce qu'il y a quand même le sacerdoce universel, donc
voilà,
cette idée
oui.
Qu'un laïc a les mêmes possibilités d'intervenir,
voilà.
À part le fait qu'il n'a pas fait de culture, enfin qu'il n'a pas fait d'études, forcément. D'accord. Alors on va parler maintenant spécifiquement du baptême. Alors le baptême, est-ce que ça vient des catholiques d'abord ? Est-ce que c'est une cérémonie ? Enfin, est-ce que ça vient de Jésus, de Jean ? Où est-ce que ça,
alors,
on le retrouve?
Ça vient du Nouveau Testament.
Oui.
Où on parle du baptême de Jean-Baptiste.
Ouais.
Où on parle des disciples de Jésus qui baptisait. Où il y a dans la finale de Matthieu, dans la finale de l'évangile de Matthieu, un ordre de Jésus baptisé les. Ça vient donc du Nouveau Testament.
Oui.
Mais le Nouveau Testament n'invente pas le baptême.
D'accord.
Le baptême est une pratique largement répandue,
oui.
Aussi bien dans le judaïsme que dans quantité de religions proche-orientales.
Oui.
Et le baptême est lié au symbolisme très fort, surtout au Proche-Orient.
Oui.
Mais pas uniquement au Proche-Orient, de l'eau.
Oui. Dans... L'eau qui tue et l'eau qui ressuscite, enfin l'eau qui donne la vie.
Il y a quatre grands symboles dans l'eau. L'eau, c'est ce qui permet de vivre.
Oui.
Signe donc de la grâce de Dieu qui permet de vivre.
Ouais.
L'eau, c'est ce qui nettoie.
Oui.
Donc ce qui
le
efface
péché.
La culpabilité, etc. Il y a l'eau dans laquelle, l'eau du bain, dans laquelle on plonge et on immerge, et
ouais.
on émerge, dans laquelle on s'immerge et on s'émerge.
Ouais.
Et ça, c'est le signe d'une rupture, d'une mort et d'une résurrection.
Oui.
Mais d'une rupture entre un passé et
un
présent et
oui.
un futur. Oui. Et puis le quatrième symbolisme, c'est celui de l'esprit. Parce que l'eau, on la touche, on la sent,
ouais.
on ne peut pas la retenir.
Ouais.
L'esprit, c'est la même chose.
Ah oui.
Il nous touche, mais on ne peut jamais le... Alors il y a ce quadruple symbolisme qu'on retrouve dans quantité de religions et que le Nouveau Testament reprend. La particularité du Nouveau Testament... C'est pas d'instaurer le baptême, c'est pas Jésus qui a inventé le baptême,
oui.
mais c'est de faire le baptême au nom de Jésus.
Parce que on n'a pas la preuve que dans les autres religions, ça se faisait au nom d'un dieu.
Peut-être, mais là c'est la rupture.
Ouais.
C'est pas de manière générale, c'est au nom de Jésus. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. C'est pas au nom de Jésus. Et là, c'est la particularité, et on voit quelque chose assez courant dans le christianisme primitif, où c'est encore plus net pour la scène, mais on en reparlera peut-être plus tard,
oui.
où on reprend des coutumes, mais on les reprend en les brisant, en quelque sorte, en leur ajoutant quelque chose, en les déformant.
En les détournant de leur sens.
En les subvertissant,
ouais.
dit mon ami Pierre ouais. Gisèle.
D'accord, d'accord. Alors, on va faire une pause pour passer un petit morceau de musique. Alors, vous nous avez choisi un morceau de Handel.
Oui, c'est Water Music, c'est évidemment lié à l'eau, même si Water Music, c'était une fête sur l'eau, c'était pas
d'accord.
un baptême, mais enfin, il y a les symboliques de l'eau qui jouent dans ce morceau.
D'accord, alors, on écoute ce morceau.
Thank you.
terminerons avec André Gounel dans Thème et Anathème et nous allons continuer à parler du baptême. Alors, on pourrait maintenant définir en se basant sur la Bible ce qu'est le baptême, le signe de la grâce, je suppose, et surtout ce qu'il n'est pas. On verra pourquoi, on détaillera un peu. Par exemple, je suppose que le baptême, en tout cas chez les protestants, n'est pas du tout un ticket d'entrée pour le paradis.
Absolument pas. Il y a toute une série de textes qui soulignent ça en disant le baptême ne sauve pas. Le baptême n'apporte pas le salut.
Oui.
Le baptême est un signe. Il est un signe de ce que Dieu fait, disent les réformés surtout. Il n'a pas une puissance en lui-même. Il ne faut pas en faire quelque chose de sacré, de porteur du sacré. C'est pas de l'eau sacrée.
C'est pas de l'eau bénite.
Oui, c'est pas de l'eau qui aurait une qualité particulière.
Oui.
Alors, ça va très loin. Les premiers réformés demandent qu'on baptise jeune, mais ne veulent pas qu'on baptise le nourrisson.
D'accord.
À une époque où on baptisait pratiquement à l'accouchement.
Oui.
Au cas où le bébé mourait pour qu'il soit sauvé.
Oui.
Alors ils disent non, il est sauvé par le Christ, il n'est pas sauvé par le baptême, il ne faut pas lui donner une sorte de valeur magique.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est dans le catholicisme. Même, vous parlez des débuts du protestantisme, de cette époque-là, mais mon exemple qui n'est pas, je ne remonte pas si loin, même si j'ai quelques années, il n'était pas question de sortir un enfant en voiture tant qu'il n'était pas baptisé. Ma grand-mère ne voulait pas que mes parents nous sortent en voiture, donc on était baptisés à un mois, mais avant, il ne fallait pas prendre de risques, parce que sinon, c'était l'enfer.
Et alors moi, je me souviens aussi d'un baptême que j'ai fait, la grand-mère était catholique, et elle me dit avec un grand sourire charmant, qui m'a un peu désarmé, désarçonné, elle me dit « Maintenant, il est chrétien. » Non, il n'est pas chrétien, il a reçu le signe.
Oui.
Le signe de l'amour de Dieu. Et ce qui fait le chrétien, c'est quand même la foi.
Si on peut résumer, le baptême, c'est en premier le signe de la grâce de Dieu.
Alors ça, c'est très réformé, hein, c'est le signe de la grâce de Dieu. C'est un acte de Dieu. Et ça va très loin dans les textes luthériens, par exemple.
Oui.
On ne parle pratiquement pas de celui qui baptise. Ça n'a pas d'importance.
Oui, n'importe qui peut faire un baptême.
N'importe qui. Moi, dans le catholicisme aussi, n'importe qui.
Oui, je sais, notamment en cas de danger de mort.
Voilà, oui.
Oui.
Mais on ne parle pas du ministre du baptême. C'est vraiment un acte de Dieu et ça se passe, on parle à peine des parents, ça se passe entre Dieu et le baptisé.
D'accord. Et quel est... Il y a d'autres significations du baptême. Là, on vient de voir le signe de la grâce. Mais est-ce qu'il y a d'autres symbolismes, comme l'entrée dans une communauté? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est lié au début de la réforme?
Oui, alors c'est lié parce que c'est un signe communautaire. Si j'ai besoin de donner un signe de ce qui se passe entre Dieu et moi, ou si nous avons besoin d'un signe, c'est pour les autres.
Oui.
C'est pour témoigner devant les frères et devant ceux qui ne sont pas chrétiens, de témoigner de la grâce que Dieu a faite. Les réformés ont longtemps refusé les baptêmes en privé. Et encore.
Ils ne sont pas très chauds pour les baptêmes privés.
Ils sont très réticents.
Oui.
Il faut que le baptême ait lieu dans l'assemblée. Le baptême, c'est une manière de se dire à soi, mais de dire aux autres, voilà ce que Dieu a fait.
D'accord. Donc, quelqu'un qui voudrait être baptisé, mais qui ne fait pas partie d'une communauté, il marche sur une jambe, il manque quelque chose.
Théologiquement, c'est un peu impensable. Être baptisé,
oui.
C'est dire, je m'insère dans la communauté. Et on retrouve l'idée du sacramentum, engagement de la Légion.
Ah oui, puisqu'on avait vu donc sacramentum, il y avait le mystère, le mot.
Le mot mysterion, mais le rapport est tout à fait artificiel.
Ouais.
Par contre, sacramentum, dans l'Antiquité latine, c'est le légionnaire qui s'engage.
Oui.
Alors il y a cette idée, c'est un acte public, je m'engage devant les autres. Si bien que tout seul, moi, je n'ai pas besoin du baptême.
Oui.
Si je suis Robinson sur une île
déserte,
isolée, ça n'a pas de sens.
Oui, d'accord. Et alors, bon, on voit un petit peu ce que ça veut dire, le baptême. Mais alors, pourquoi il y a eu toutes ces querelles? Parce que l'histoire du baptême, comme je l'ai dit au début, c'est loin d'être une histoire apaisée. Quand on regarde les querelles avec les anabaptistes...
Alors, ça a été des querelles épouvantables.
Oui, je voulais presque intituler mon émission « Un peu d'eau et du sang ».
Oui.
Bon, j'étais un petit peu... Voilà, j'ai préféré prendre un tour un peu plus modéré et parler de larmes, mais il y a eu du sang.
Il y a eu aussi des noyades, c'est pas
voilà.
Du sang.
Voilà, oui. Alors, on retrouve l'eau, mais c'est vraiment pas dans ce sens-là.
Oui. Il y a une...
Vous pouvez nous en parler un petit peu de pourquoi... S'acharner autant.
Alors je crois qu'il y a deux choses qui jouent. D'abord sur le plan théologique, j'ai dit le baptême comme signe de ce que Dieu fait, comme témoignage de ce que Dieu fait.
Oui.
Pour les anabaptistes, c'est le témoignage que j'ai bien reçu la grâce de Dieu, que je l'ai accepté.
D'accord.
C'est-à-dire que le baptême renvoie aussi à la foi.
D'accord.
Du fidèle.
Oui, je précise, anabaptiste, ça veut dire ceux qui sont contre le baptême des petits-enfants.
Exactement, oui.
Oui.
Et donc, ce n'est pas le symbole de la même chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils estiment qu'on baptise des gens qui ne seront jamais chrétiens, qui ne seront jamais vraiment croyants.
Oui, si on baptise des enfants.
Si on baptise des enfants.
Oui.
Et qu'il faut attendre que les gens fassent profession de christianisme. Alors ça, c'est un premier élément qui joue jusqu'à aujourd'hui.
Oui.
On le sent très très fort.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut que, pour les gens qui sont anabaptistes sur ce plan-là, il y a une réponse en fait du croyant.
C'est plus le signe de ma réponse
oui.
à la grâce de Dieu que le signe
de
la
grâce de
Dieu.
Dieu.
Alors, il y a eu une double réponse à cette objection. D'abord, la première, on la trouve chez Luther, mais elle a été reprise par les réformés ensuite, qui est de dire, de toute manière, si on veut baptiser des gens qui sont vraiment chrétiens, on ne sait jamais qui il est vraiment.
Oui.
On ne peut pas juger les cœurs. Et à ce moment-là, on ne baptise jamais.
Oui.
S'il faut que baptiser les vrais convertis, on ne baptise jamais.
Oui.
Alors ça, c'est une première réponse qui est donnée très très fortement. La seconde réponse, elle s'appuie sur un certain nombre de textes bibliques et avec tout un débat dans lequel je ne rentre pas. Est-ce que l'enseignement dans les paroles de Jésus précède ou suit le baptême? Est-ce que c'est baptisé et enseigné?
Ou enseigné,
ou est-ce que c'est enseigné
et baptisé? On ne le sait pas trop.
Je simplifie à l'extrême,
oui.
C'est très compliqué.
Oui, oui, restons
simples. Alors, il y a aussi cette idée très forte que Dieu fait alliance avec un peuple, pas seulement avec des gens.
Ouais.
Les anabaptistes sont très, très personnalistes, ils sont très modernes de ce côté-là.
Oui.
C'est la personne qui compte et c'est sa décision.
Oui, oui.
Et de ce côté-là, réformés et luthériens sont plus, je ne sais pas si aujourd'hui on dirait communautaristes, mais on fait partie d'un peuple.
Ouais.
Et on baptise les bébés, attention, les bébés des familles croyantes.
D'accord.
Si vous êtes, si les parents ne sont pas croyants, on ne baptise pas.
D'accord. Et est-ce que, je voudrais poser une question peut-être un peu iconoclaste, mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée quand même, à cette époque où on veut se démarquer des catholiques, l'idée de marquer un peu, je dirais pas le bétail, mais son peuple. C'est-à-dire plus on
voilà.
les prend petits, mmh. et plus bon, bah, ils seront protestants et ils n'iront pas trop... Bon, est-ce que c'est un argument?
Bon, ça joue pas explicitement dans les textes, hein, mais
oui.
c'est pas du tout exclu, au contraire.
Quand on connaît l'âme humaine, oui. on se doute...
Alors là, donc, le baptême, maintenu le baptême des enfants, avec, dans la tradition réformée, beaucoup d'hésitations.
Oui, chez les luthériens, c'est plus... C'est...
Chez les luthériens, il y a beaucoup moins d'hésitation.
Oui.
Et on en a jusqu'à l'époque récente. Alors Zwingli, déjà au XVIe siècle, dit au fond, peut-être faudrait-il mieux, effectivement, attendre l'âge adulte. Mais il trouve que ce n'est pas très important comme...
Ah oui, pour lui, ce n'est pas très très important. Quand il se heurte aux anabaptistes, puisqu'on sait qu'il s'est heurté violemment, ce n'était pas sur ce plan-là.
Mais on va voir la seconde raison de refus des anabaptistes. Et mais on trouve ça, par exemple, chez celui qu'on considère souvent comme le plus grand théologien réformé du XXe siècle, chez Karl Barth.
Oui.
Il trouve que le baptême des enfants, pour lui aussi, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas capital, ce n'est pas décisif, mais que c'est une erreur.
D'accord. Une erreur dans quel sens
Eh bien, qu'on ne devrait pas baptiser les
on
enfants.
On ne devrait pas baptiser les enfants. D'accord.
Et dans l'Église réformée de France, devenue Église protestante unie, on laisse la liberté.
Oui, oui.
La liberté aux parents et la liberté aux pasteurs.
Il y a des pasteurs qui refusent de baptiser enfants dans les PUDF.
Voilà. Et le règlement, si je peux dire, qu'on appelle la discipline, demande que dans ce cas-là, ils orientent les parents vers un pasteur qui accepte.
Oui, oui, si les parents
C'est-à-dire
veulent absolument.
C'est-à-dire qu'ils ne soient pas sectaires, si je peux
oui,
dire.
Oui.
Mais c'est une clause de conscience, tout à fait.
Mais la tendance, disons...
la tendance est de baptiser et de ne pas refuser. Maintenant, la tendance sociologique, c'est que les baptêmes interviennent de plus en plus tard.
Oui, oui, oui.
De plus en plus tard.
Il y a notamment des baptêmes de grands-enfants, d'ados.
Très souvent, d'ados, de grands-enfants. Il y a toujours eu des baptêmes de fin de catéchisme. Enfin, c'est pas aussi rigide que... Alors, la seconde grande raison d'opposition, et qui, au XVIe siècle, est tout à fait forte, c'est qu'on ne distingue pas la cité de l'Église. On ne distingue pas la société de l'Église.
Oui.
Et que le baptême fait entrer dans l'Église, mais aussi dans la société.
Ah oui, d'accord, c'est presque...
Et alors, celui qui refuse le baptême, c'est celui qui se sépare.
Ouais.
C'est d'ailleurs un thème fort dans certains textes anabaptistes. Séparez-vous, vous sortez de la société.
Oui, parce que chez les anabaptistes, il y avait aussi l'idée qu'on retrouve dans certains mouvements évangéliques de se séparer du reste de la société qui est mauvaise.
Séparez-vous. Ça revient dans la confession de Schreitem, par exemple. Séparez-vous. Et les anabaptistes, ou en tout cas les radicaux, ont souvent tendance à faire des communautés close, séparé, ce qui au XVIe siècle était possible économiquement, ce qui est plus difficile aujourd'hui. Mais des gens comme les Amish sont dans cette tradition d'une société un peu close, un peu fermée, qui se distingue, qui se sépare.
Oui, alors que la réforme au départ est quand même liée, surtout en Suisse, à des villes. On voit Zwingli à Zurich.
C'est le peuple.
Oui, oui.
Et Zwingli a plus le souci d'éduquer les gens, de les amener à la foi réformée, que de rompre ce que lui reprochent les anabaptistes, qui sont, la plupart des anabaptistes sont d'anciens disciples de Zwingli.
Oui, oui.
Mais ils disent, il y en a assez de prendre des ménagements avec la société, il faut rompre.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers, je ne sais pas, mais à critiquer un peu l'alliance du sabre et du goupillon, du
Absolument.
Politique et du religieux.
Alors, ils ont des dimensions anarchiques.
Oui, oui, oui.
Alors,
oui.
Ils ont des dimensions anarchiques quelquefois sanglantes. C'est le cas en Allemagne avec Münzer, qui fait une révolte absolument épouvantable des paysans.
Oui.
Et puis ensuite, ils sont résolument pacifiques.
Ah, oui.
Et résolument pacifique, ça veut dire qu'ils vont en martyr. Hein.
Oui, oui. Et puis, il y a cette dimension sociale qu'on ne retrouve pas du tout dans la réforme classique. Alors, on va faire une seconde pause musicale. Je vous ai choisi un morceau très différent, c'est Chemicals du groupe Normandie.
Falling for you now, and I let it take me.
Nous nous retrouvons avec André Gounel pour évoquer la pratique actuelle du baptême dans nos églises, avec maintenant l'apport au protestantisme de gens complètement nouveaux. Il y a des gens qui sont issus du catholicisme ou qui sont issus d'aucune religion et qui viennent nous rejoindre. Alors là, le problème du baptême se pose d'une façon différente, puisque pas tellement l'histoire de baptiser enfants, ce sont des adultes. Alors est-ce que ça change la donne ?
Alors ça crée toute une série de catégories. Il y a les gens qui sont, disons, de tradition catholique ou d'une autre église et qui viennent au protestantisme.
Alors là, on ne les rebaptise pas.
Ils ont été baptisés, on ne les rebaptise pas. En principe, il y a réciprocité, c'est-à-dire que les catholiques ne rebaptisent pas un protestant qui a été baptisé.
Oui.
Alors, je dis en principe parce que les catholiques estiment que le baptême n'est valable que s'il est administré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Or, dans le Nouveau Testament, il y a la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Oui.
Dans l'Évangile de Matthieu, mais dans le livre des Actes, on parle plusieurs fois de baptême au nom de Jésus-Christ.
Ah oui.
Et il y a des pasteurs qui ont baptisé au nom de Jésus-Christ.
Donc là, pour l'Église catholique,
alors,
ce n'est pas valable.
C'est pas valable, il faut rebaptiser. Comme on ne le sait pas toujours.
Oui, parce que est-ce que c'est inscrit dans les registres ?
Dans certains registres, c'est inscrit.
Ouais.
Dans d'autres, ça ne l'est pas.
Oui.
Alors dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle. Ça, c'est toute la scolastique. Il y a le baptême sous condition. Je te baptise si tu n'as pas déjà été baptisé.
Ah oui, d'accord. Mais bon, ça, c'est catholique, alors.
Ça, c'est
pas du tout du côté protestant.
Du côté protestant, dans ce cas-là, on ne rebaptise pas. Second cas de figure, on a des gens qui viennent au protestantisme, qui n'ont pas été baptisés, et qui, pour différentes raisons, ne veulent pas être baptisés. Donc,
oui,
ont envie d'être baptisés.
Oui.
C'est parfaitement admis.
Oui, oui.
On peut être membre de l'Église sans être baptisé, et on peut être reçu à la Sainte-Seine sans être baptisé.
On peut être responsable d'Église.
Exactement.
Oui.
Moi, j'ai eu des conseillers presbytéraux qui n'étaient pas baptisés.
D'accord.
Et parce que le baptême est un signe, c'est pas la réalité.
Ouais.
S'il y a la réalité de la grâce de Dieu et de la foi, eh ben, s'il veut pas le manifester de cette manière-là, on va pas l'obliger. Si ça lui fait obstacle.
Oui, 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 bien sûr.
Alors on peut le pousser, on peut l'encourager à se faire baptiser, mais dans aucun cas, un refus doit être un obstacle.
D'accord.
Et puis il y a le troisième cas, celui du baptême donné à des adultes. Ça va depuis des jeunes jusqu'à des gens très âgés.
Oui, oui. Alors, quand j'ai parlé de protestantisme en disant « on ne rebaptise pas », en fait, j'ai fait un raccourci. Parce que dans certains groupes proches des évangéliques, on rebaptise, non ?
Oui, mais il faut aussi préciser que dans ces groupes, on considère que le baptême donné à un bébé n'est pas un baptême.
Oui,
c'est
d'accord.
C'est un simulacre.
D'accord.
C'est un faux baptême. Donc, on ne
rebaptise
pas.
On ne rebaptise pas, on baptise. Oui, oui,
on
d'accord.
Baptise. C'est ceux de l'extérieur qui disent « on ne rebaptise pas ». Dans les accords qui ont été passés il y a une trentaine d'années entre les Mennonites et les luthériens, il y a une phrase très significative où les Mennonites disent qu'ils s'engagent à ne pas faire ce que d'autres pourraient considérer comme un rebaptême.
Ah oui, d'accord. Alors là, c'est vraiment presque de la scolastique.
En c'est pas de la scolastique, c'est une scolastique qui crée une ouverture.
Oui.
Alors que dans le cas contraire, c'est un scolastique qui...
Oui, alors Mennonites, vous pouvez définir rapidement.
Alors les Mennonites, c'est une branche des Anabaptistes, de la réforme radicale. Ils sont nés au XVIe siècle et ils ont formé des groupes pacifiques, alors fortement pacifiques.
Oui, c'est de eux que sont descendus les Amish, ils sont plus ou moins liés.
Et alors beaucoup d'entre eux se sont installés au 18e, 19e, en Amérique du Nord.
Ouais.
Et ils ont des communautés mennonites assez puissantes et, au Canada, aux États-Unis. Et les Amish sont
oui.
une branche du mennonite.
Ouais.
Alors une branche, comment dirais-je...
Encore plus radicale.
C'est-à-dire qu'ils veulent maintenir la forme de vie, le style de vie du 18e.
D'accord.
Ils ont les costumes du 18e.
Oui, oui,
ils
oui.
ont l'alimentation du 18e.
Oui, on l'a vu dans un film célèbre, Witness, oui. avec Robert Redford.
Bon, j'ai visité des communautés mennonites. Ah. C'est un peu mitigé. Hein.
Oui, oui.
Et ils sont censés ne pas avoir l'électricité. Dans leurs étables, il y a quand même l'électricité.
D'accord. Après,
mais le plus possible, ils restent dans les...
D'accord. Bon, on est un petit peu loin du baptême, mais là, de toute façon, c'est l'heure de se séparer. Alors, on se retrouvera pour une autre fois, pour une autre émission, peut-être autour de la Seine. Voilà, merci André Gounel et merci à nos auditeurs.
Au revoir.
Au revoir.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.